people just like it better that way. En première ligne, série d'émissions proposées par Radio PFM 99.9 et l'association Colère du présent à l'occasion du cabaret des Colères. Le cabaret des Colères, une semaine organisée par Colère du présent à l'hôtel de Guinara. Ça se passe jusqu'au 28 novembre avec le concours des associations Couleur Jazz, Atacartois, le Cada d'Arras, le Lac de Liévin, Radio PFM, Didouda, les Tréteaux d'Artois et d'autres. En première ligne 4, on accueille en ce jeudi soir Nadine du Lac de Liévin, le lieu autogéré de Liévin, et Pierre pour les objecteurs de croissance 62. Alors on va commencer à parler du Lac, puisque c'est l'association qui invite ce jeudi soir, qui propose la programmation, qui a donc invité les différents invités de ce soir. Alors pour les Arageois et les Arageoises qui ne connaissent pas encore ce lieu sympatoche à Liévin, l'idée du Lac, c'est quoi, Nadine?
L'idée du Lac, ça a été à l'origine de se trouver un endroit pour se poser et organiser notre vie, les initiatives qu'on avait en tête, sans dépendre de la bonne volonté de gens qui accepteraient de nous prêter un lieu.
Alors ce « nous », c'est qui à la base des différentes associations culturelles, sociales?
Oui, différentes associations, différentes personnes aussi qui avaient l'habitude de se croiser dans un café associatif à Lens qui s'appelait l'Estrade et qui un jour a mis la clé sous la porte pour des raisons économiques et qui nous a laissé un petit peu orphelins d'un endroit où se retrouver et débattre de la démocratie, de la décroissance, de l'autogestion, enfin, de débattre de choses qu'on avait en ligne de mire comme des utopies. Aussi un lieu qu'on avait pour s'organiser concrètement pour certains d'entre nous dans le cadre de collectifs, le collectif d'aide aux migrants, aux Roms, l'association au secours 62, et des collectifs qui avaient donc besoin d'un endroit pour s'organiser.
Alors comment ça se présente, hein, toujours pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce lieu? C'est une salle, un bar, un lieu de rencontre, de diffusion de films, de spectacles aussi?
Oui, c'est tout ça à la fois. Hein. C'est le rez-de-chaussée d'une maison en centre-ville dans lequel on a organisé ce que nous on appelle la grande salle. Alors effectivement, le mot grande est très relatif, mais on arrive à y faire des débats, des soirées de rencontres, de slam, des soirées théâtre, des projections de films. Et on a aussi réservé dans ce rez-de-chaussée un endroit pour le bar, hein, qui est un lieu incontournable, n'est-ce pas, de convivialité, un endroit bibliothèque. Et puis une cuisine où on peut se retrouver pour des ce qu'on appelle cantine autogérée ou des repas partagés.
Alors justement, l'autogestion, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et comment concrètement vous appliquez ça?
Alors à l'origine, l'autogestion pour nous, c'était on s'organise sans chef et de façon indépendante de toute structure politique ou autre. Et puis dans la vie de tous les jours, eh bien, on s'est interrogé sur ce que voulait dire ce mot, parce qu'il a bien fallu faire face à des questions d'organisation. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'autogestion, ce n'est pas le bazar, ce n'est pas la non-organisation, c'est une organisation qui, au contraire, est extrêmement exigeante. Et on en fait l'expérience régulièrement, enfin oui, quotidiennement depuis 3 ans. On construit ensemble ce que veut dire l'autogestion dans la vie quotidienne, quoi.
Alors avant que des lieux comme ça existent, les associations, les collectifs, les mouvements politiques se réunissaient aussi dans d'autres lieux. Ça pouvait être des maisons de syndicats, ça pouvait être des maisons d'associations, ça pouvait aussi être des centres sociaux. Alors pourquoi finalement vous avez dû créer votre lieu et pas pu vous retrouver dans ces autres lieux que je viens de citer?
On utilisait ces autres lieux, mais comme je le disais, on utilisait aussi le café associatif L'Estrade à Lens, et puis on utilisait aussi nos propres maisons. Quand on avait besoin de se retrouver pour une réunion et qu'on n'avait pas réussi à obtenir l'accès à une salle municipale, hein, dans un centre social ou dans un quartier, parce que c'était toujours des demandes au coup par coup quand on avait besoin de se poser quelque part. Et puis alors, quand il s'agissait d'organiser des initiatives, hein, des concerts, des projections de films, des soirées théâtre, il y avait toujours l'approbation à obtenir des propriétaires de ces salles. Et encore, quand je dis des propriétaires, hein, les salles municipales, en principe, appartiennent à tout le monde. Elles appartiennent aux habitants de la ville, mais il faut reconnaître que c'est quand même souvent bien compliqué d'obtenir l'accès à une salle pour organiser quelque chose quand on est un simple citoyen, notamment l'accès à une salle gratuite. Après, quand on paye des salles, c'est quand même un peu plus facile d'en obtenir, mais ce n'était pas le type de fonctionnement qu'on pouvait se permettre.
Alors pour donner à nouveau une idée aux auditeurs, aux auditrices, est-ce que tu peux nous parler de quelques rendez-vous qui, toi, peut-être, t'ont marqué du lac, des rendez-vous importants, des choses qui se sont passées, qui t'ont particulièrement intéressé ou amusé, peut-être ?
Des rendez-vous qui nous marquent, ce sont les rendez-vous que l'on donne à d'autres collectifs ou personnes qu'on ne connaît pas et qui sont de passage dans notre région. Par exemple, je pense à l'Alter Tour, je pense à la caravane qui, il y a 2 ans, je crois, se rendait de Lille jusqu'à Notre-Dame-des-Landes et qui est passée par chez nous et qui s'est posée au lac. C'est un lieu où nous, qui sommes chez nous, hein, au lac, nous pouvons accueillir les personnes dont on se sent proche, pour le temps d'une soirée ou le temps d'une journée, faire connaissance, les accueillir avec chaleur, avec convivialité, échanger sur nos expériences. Et à chaque fois, on se rend compte qu'on sort grandi de ces rencontres. De la même façon que lorsqu'on organise des soirées débats avec la projection d'un film, très souvent en accueillant le réalisateur, chaque fois que l'on peut, ou alors en accueillant quelqu'un qui a des choses à nous apporter sur la thématique traitée par le film, avec notre pratique de débat, hein, qui est une pratique où, à la fin du film, on bouge toutes les chaises pour se mettre en rond et puis tout le monde est à égalité de prise de parole dans le cercle, à chaque fois, on a cette même impression qu'on sort de là grandi. Et c'est une expression qu'on retrouve souvent dans les constats qu'on fait les uns et les autres après ce type d'initiative.
On va faire une petite pause musicale et puis juste après, on écoutera à nouveau Nadine du lieu autogéré de Liévin et aussi Pierre pour les objecteurs de croissance 62. Petite vieillerie, on est en 1977, le titre L'autogestion.
Plus le flic au carrefour de nos doutes, plus de week-ends pour baliser les routes qui nous conduisent aux prairies dépolluées où l'on se couche dans les doux soirs d'été. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. On verra les derniers hommes politiques faire leurs discours aux fouleuses ironiques. On applaudira pour pas les vexer, puis on rentrera chez nous sans voter. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. On pendra ni patron ni président, car les martyrs font toujours des enfants qui, 5 ans après les révolutions, prennent le pouvoir et finissent la chanson. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. Il n'y aura plus de conneries à la radio, rien que des idées, rien que du nouveau. Connaissance et plaisir seront mêlés, y a les speakers qui devront changer de métier. a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. On saura qu'on respire tous le même air, que bêtes et hommes, hommes et univers, atomes, cosmos, on est tous solidaires, on fait tous la ronde dans la même galère. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. En attendant, on trime tous comme des cons, chacun fermé pour cause de production. On crève d'ennui entre deux élections, on crève de faim de l'autre côté de l'horizon. Y'a que l'utopie qui allume l'horizon, rien n'est plus poétique que l'autogestion.
On écoutait Patrick Font avant ses démêlés avec la justice et Philippe Val avant qu'il ne devienne journaliste. C'était en 1977, ce titre L'autogestion. Vous êtes toujours sur Radio PFM 99.9 dans cette émission En Première Ligne, série d'émissions proposées par PFM et Colère du Présent à l'occasion du cabaret des colères. Et on reçoit ce jeudi soir Nadine du lieu autogéré de Liévin et Pierre pour les objecteurs de croissance 62. Encore quelques questions pour Nadine. Est-ce que, parce que ce lieu, le LAG, existe depuis 2012, est-ce que ça a créé une dynamique entre les différentes associations aussi qui y participaient, qui gravitent, qui font le LAG ? Est-ce que le danger aussi de ce... parce que le danger de ce genre de lieu, ça peut aussi être de créer une forme d'entre-soi où finalement tout s'organise dans ce lieu et où les collectifs, les gens ne vont pas à la rencontre d'autres espaces, d'autres gens, quoi. C'est un peu une critique qui est faite parfois au Centre culturel libertaire à Lille.
C'est effectivement une question que nous nous sommes posées. Alors, il y a quelque chose qui est marquant quand même dans notre expérience. Hein. Je ne peux pas la comparer à d'autres parce que je ne connais pas suffisamment les autres expériences de lieux autogérés dans notre pays, mais il y a quelque chose qui a profondément marqué notre collectif et installé des habitudes, c'est la diversité des origines des personnes qui étaient là en termes d'expérience vécue et aussi la diversité des générations. Et l'apport des jeunes à côté de l'apport de gens qui ont 30 ans d'activité militante et d'engagement derrière eux, cet ensemble a fait que dès le début, il y a eu une espèce de pétillement des initiatives, une diversité des choses et donc une diversité des réseaux vers lesquels on s'est tourné pour proposer des rencontres, des soirées, des initiatives. Ceci dit, on restait quand même dans des réseaux de gens engagés, militants, avec une réflexion politique sur le monde qui nous entoure, une envie de le transformer, etc. Et on s'est interrogé sur comment nous ouvrir déjà pour le moins au quartier qui nous entoure. Et alors, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est que... alors que nos initiatives d'ouverture sur le quartier amenaient peu de personnes, alors que la fête des voisins avait plutôt été une fête entre nous la première fois qu'on l'a initiée, on a mis en place en début de cette année un espace de gratuité qu'on appelle le magasin gratuit du LAG, qui a démarré doucement, tranquillement, à l'initiative de deux ou trois personnes de notre groupe, et qui, parce qu'on est allé au-devant des personnes qui fréquentent les centres sociaux, des lieux associatifs, des lieux de solidarité, les Restos du Cœur, etc., a vu soudain la porte du LAG poussée par des gens qu'on n'avait jamais vus dans les lieux. Alors c'est quelque chose d'assez récent parce que ça date d'il y a 6 mois, mais depuis cet événement, alors nous on n'avait pas imaginé que le magasin gratuit allait permettre ça, mais ça a été l'élément déclencheur. Et depuis 6 mois, on vit au LAG des expériences qu'on n'avait jamais vécues, qu'on n'imaginait pas, où on accueille des personnes qui sont très différentes dans leur expérience, dans leur représentation du monde, très différentes de nous, des militants, des gens qu'on croise dans nos réseaux. Et pour nous, c'est une vraie bouffée d'oxygène.
Très différent, c'est-à-dire qu'ils sont plus pauvres, c'est ça que vous essayez de dire ?
Bah, dans l'équipe des militants qu'on croise au lac depuis 2 ans et demi, il y a des gens qui tirent le diable par la queue à la fin de chaque mois. Hein. Donc si on est strictement sur l'aspect des revenus, c'est quand même pas l'élément qui nous distingue le plus. Hein, parce que dans les gens du lac, il y a toutes sortes de personnes en termes de revenus. Mais dans les personnes qui nous ont découvert par le biais du magasin gratuit, on découvre des personnes qui se sont toujours fait une représentation d'elles-mêmes comme étant un petit peu à la marge, exclues, comme ne pouvant pas prendre des responsabilités, comme peut-être n'étant pas digne d'intérêt pour les gens qui, on va dire, sont sur le devant de la scène dans la vie locale ou régionale, et qui se rendent compte que, eh bien, en venant au lag, un vaut un, il n'y a pas de différence entre les gens, c'est quelque chose qu'on les entend souvent dire, c'est quand même incroyable ici, vous ne faites pas de différence. Quelqu'un qui fait une proposition, il est écouté, on essaye de lui permettre de mettre son idée, son projet, de le faire devenir une réalité, quelle que soit la personne qui peut émettre une idée. Bon, donc c'est quelque chose qui marque ces personnes parce que socialement, ça ne fait pas partie de leur expérience de vie. Hein, on les a plus souvent entretenus dans des situations d'assister que dans des situations où on les poussait à prendre des responsabilités. Et depuis 6 mois, on voit des gens s'épanouir et se révéler et assumer des responsabilités qu'il y a 6 mois, ils n'imaginaient pas assumer, quoi. Un exemple tout bête, hein, il y a le bar qui est autogéré, donc il y a une caisse qui s'ouvre, il y a de l'argent dans la caisse. Il y a quelqu'un à qui on avait confié la clé du lac pour venir ouvrir le magasin gratuit, qui était content qu'on lui confie cette responsabilité et qui soudain a pris peur de se rendre compte qu'il avait accès à la caisse. Parce que c'était en dehors de son entendement qu'on trouve ça normal qu'il puisse accéder à la caisse, quoi.
Alors, ce qu'on peut signaler, hein, c'est qu'à Arras, cette semaine, il y a aussi un magasin gratuit, puisque dans le cadre du cabaret des colères, l'association Colère du Présent, et puis je pense les gens du lac aussi, ont dû mettre en place ce type de magasin gratuit où on peut à la fois déposer des choses, aussi en prendre, partager des choses comme ça. Alors, ce qui m'amène à cette question, donc le lac, c'est à Liévin. Il y a des gens qui pensent que ce genre de lieu devrait être aussi organisé ailleurs, et notamment à Arras. Pourquoi on n'y arrive pas à Arras ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous, je sais pas, vous êtes...
Alors, il faudrait peut-être poser la question aux Arrageois. Hein. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. L'expérience qu'on a sur le bassin minier, c'est que quand même, au départ, il y avait un groupe de personnes qui se connaissaient, qui étaient convaincues qu'il fallait se lancer dans cette expérience, qui politiquement étaient intéressées par la question de l'autogestion et qui, de la même façon qu'ils expérimentaient des alternatives à la société capitaliste telles que des AMAP, des SEL, des expériences comme ça, ont eu envie d'expérimenter l'autogestion. Hein, parce que c'est, l'autogestion, c'est une utopie. La mettre en pratique, ça veut dire... entre guillemets, poser ses valises, faire preuve d'humilité, accepter qu'on ne soit pas toujours d'accord, mais qu'il faille bien trouver des solutions et puis au final aboutir à un consensus. Enfin, ça veut dire tout ça aussi, l'autogestion. Et finalement, quand on regarde derrière nous, on n'a pas été habitué à ça. Hein, l'école ne nous prépare absolument pas ce genre de situation. Et la vie, notre vie d'adulte depuis qu'on a quitté l'école, ne nous avait pas non plus préparé à ça. Et de ce point de vue-là, c'est une expérience tout à fait enthousiasmante, quoi.
Alors ce soir, hein, dans le cadre, enfin ce jeudi soir, hein, dans le cadre du cabaret des colères, Colère du Présent invite le lag, qui lui-même invite des personnes à s'exprimer aussi autour d'un film. Alors peut-être un mot sur le film qui sera projeté ce jeudi soir.
Alors c'est un film documentaire qui s'appelle « Ne vivons plus comme des esclaves ». Hein, rien que le titre donne un petit peu la tonalité de la réflexion qu'oriente le film. Il est réalisé par un réalisateur franco-grec qui est également enseignant de philosophie dans le sud de la France et qui, au vu des événements en Grèce ces dernières années, a fait le choix de repartir là-bas et d'être à la fois un acteur et un observateur de ce qui se passe et qui a été extrêmement sensible aux expériences autogestionnaires qui se développent dans certains lieux du pays, notamment à Athènes, et qui a décidé d'utiliser donc la caméra pour rendre compte au-delà de ces lieux où se vive l'autogestion, pour rendre compte de ce que certains Grecs sont en train de vivre comme expérience. Et bon, c'est extrêmement intéressant. Donc, il s'appelle Yannis Youlountas. Sa démarche est extrêmement intéressante parce que sa double casquette d'enseignant en philosophie et de réalisateur permet une qualité du film du point de vue de la réflexion qu'il permet, et en même temps une qualité du point de vue artistique en tant que cinéaste. Et puis sa double maîtrise de la langue française et du grec lui permet à la fois d'être comme un poisson dans l'eau là-bas, dans ses relations avec les gens, et ensuite quand il revient en France et qu'il vient nous présenter ses films, je dis c'est parce qu'il vient d'en faire un deuxième, mais quand il est venu l'an dernier nous présenter ce film au LAG, sa maîtrise de notre langue permet un contact tout à fait intéressant.
Alors après le film, il y aura un échange avec des personnes de la Fédération anarchiste et aussi des objecteurs de Croissance 62. On a aussi autour de la table ce soir Pierre qui fait partie des objecteurs de Croissance 62. Donc objecteurs de Croissance, c'est une critique du capitalisme, aussi du progrès, de la croissance, enfin, de la recherche de croissance. On peut résumer ça comme ça?
En fait, c'est une façon de présenter les choses totalement différente. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une critique du capitalisme et du productivisme. C'est surtout une autre méthode pour réfléchir et pour agir au niveau de la société actuellement. C'est-à-dire que je pense que au niveau de ce qu'on peut dire par rapport à ce que vient de décrire Nadine, ce qu'on peut dire au niveau de l'autogestion, c'est un des éléments qui permet justement de pouvoir essayer de changer ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire notre façon de penser.
C'est un mouvement, enfin c'est des mouvements, hein, parce qu'il faut dire que chez les décroissants, il y a différents mouvements, objecteurs de croissance, MOC. Alors les objecteurs de croissance 62, ils sont où dans tout ça?
On se situe partout, c'est-à-dire qu'en fait on n'a aucune attache véritable avec certaines structures. On est plutôt peut-être proche du MOC, mais je veux dire que actuellement, ce qu'on peut regretter dans la société actuelle, et en particulier peut-être dans notre région, c'est que on est dans un système qui essaye d'exacerber les contradictions. On n'en est pas à essayer de mettre en avant ce qui peut nous rassembler. C'est un peu ça qui peut à un moment donné faire basculer si on est capable de tenir compte et de penser ensemble. C'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure par Nadine, c'est-à-dire que en réalité, quand on est dans un système où, comme je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, on a des orateurs qui parlent, hein, comme par exemple je le fais actuellement, mais qui sont à une tribune et qui en fait apportent la bonne parole entre guillemets. On ne peut pas arriver à ce que les personnes qui sont présentes s'expriment, parce que c'est vraiment, on a le sentiment qu'on a deux types de monde. Alors que quand on parle d'autogestion, quand on parle d'autres façons de parler, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire en sorte que les personnes qui sont là aient la capacité de parler, quelle qu'elle soit, et quelle que soit leur façon de s'exprimer aussi. Parce qu'il y a aussi une façon de parler qui est trop académique actuellement, et on n'est pas automatiquement en capacité d'entendre des gens qui ont des difficultés à parler, alors qu'ils ont des idées qui sont à certains moments très intéressantes.
Alors comment ça se structure? C'est quand même un mouvement politique se présente parfois aux élections, qui ne s'est pas présenté au régional cette année.
C'est pas notre objectif actuellement, dans la mesure où on se rend compte qu'en fait, si on veut faire changer les choses, ça sera difficilement par le passage des élections telles qu'elles existent. On a vu d'abord le niveau dans lequel on se trouve actuellement. On a vu que même si on arrive à mettre en avant un certain nombre d'idées intéressantes au niveau de certains partis, dès qu'on est dans ce qu'on appelle ce que moi j'appelle une chapelle, on se retrouve un peu pieds, poings liés, et on n'est plus capable d'écouter ce qui se passe à côté. Alors, ce qui veut dire que concrètement, d'une part, ce n'était pas notre objectif d'aller au régional. D'autre part, il y a d'autres échéances qui sont beaucoup plus importantes et qui malheureusement tournent au vinaigre. C'est ce qu'on appelle, c'est toute la problématique du dérèglement climatique. Et ça, là-dessus, je dirais qu'il y a très peu de partis qui le mettent en avant. Et alors que ça fait partie de quelque chose qui est beaucoup plus grave que le pacte de sécurité, mais qui met en jeu justement notre façon d'agir, notre façon de vivre.
Alors justement, peut-être toi, tu as des nouvelles fraîches. On interroge nos différents interlocuteurs tout au long de la semaine pour savoir si les rendez-vous sont maintenus, hein, parce que à Paris, le rendez-vous a été annulé. Alors est-ce que à Lille, dimanche, ça a lieu? Est-ce que samedi aussi, à Arras, aura lieu les différents rendez-vous proposés par la coalition Climat Nord-Pas-de-Calais?
Alors, à ma connaissance, au niveau d'Arras, il n'y a rien de changé. C'est-à-dire que c'est quelque chose à la fois de symbolique et en même temps d'important, de grave. C'est-à-dire qu'on part d'une thématique qui est importante, qui s'appelle le gaz de couche, pour pouvoir montrer un petit peu ce que ça signifie, le dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on pense que si on n'est pas capable, au niveau de la COP21, on n'est pas capable de dire à la fin de la COP21, c'est-à-dire le 11 décembre, de dire on laisse au moins 80% des énergies fossiles dans le sol, on aura obligatoirement un constat d'échec. Ce ne sont pas les 39 entreprises qui actuellement disent qu'ils vont, ils vont faire quelque chose pour le climat, c'est sorti aujourd'hui, qui vont faire changer la donne, parce que parmi ces 39 entreprises, il y en a un certain nombre de pollueurs et qui sponsorisent la COP21. Alors sur l'île, a priori, ça se passera d'une façon totalement différente. C'est-à-dire qu'on va avoir non pas une marche, mais un défilé, entre guillemets, dans les rues piétonnes pour pouvoir essayer d'accoster les différents badauds. La seule difficulté qu'on aura, c'est que ce sera un dimanche après-midi, qu'on aura beaucoup de difficultés pour avoir des badauds, à moins qu'on ne trouve des gens qui vont au cinéma, etc. Donc, il y a deux choses à mettre en cause dans cette expérience. C'est d'une part le fait qu'on utilise un pacte de sécurité pour pouvoir empêcher la société civile de parler. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, la société civile n'a pas encore la capacité, du moins dans le Nord-Pas-de-Calais, de répondre d'une façon différente, c'est-à-dire de s'opposer à ce qui a été décidé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut désespérer de notre région. Je pense qu'on a un certain nombre de capacités, on a un certain nombre de possibilités, mais ça veut dire qu'il faut véritablement essayer de repartir à la base, d'écouter un petit peu tout ce qui se passe et de faire en sorte qu'on arrive à un système qui soit beaucoup plus dans le sens d'une, ce qu'on appelle une démocratie qui soit véritablement réelle, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Dernière question, Pierre, c'est sur ce rendez-vous Arrajois samedi matin. Avant le rendez-vous devant le Beffroi, il y a un autre rendez-vous devant le théâtre d'Arras à 9h15. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Je crois que c'est un lavage de banque, c'est ça?
C'est-à-dire que effectivement, puisque je pense que tu es bien renseigné, donc il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'on essaye de montrer que il faut être capable de montrer un peu les structures qui favorisent actuellement le non-règlement du dérèglement climatique. Et les banques font partie de ce système financier qu'il faut essayer de montrer du doigt. Alors pourquoi laver? Pas pour le plaisir de laver, parce qu'effectivement, Les entreprises bancaires ont les moyens de laver leur devanture, mais c'est surtout pour montrer que actuellement, ce sont eux qui polluent par l'intermédiaire de la finance tout notre système actuellement. Alors, moi, je voudrais insister peut-être aussi sur un autre point, c'est-à-dire sur tout ce qui a rapport avec l'autogestion.
C'est... Alors, très, très, très vite, parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Sur l'autogestion, c'est un chemin qui est très dur, qui est très lent, qui va être très long. Et je pense que, par exemple, la chanson qui est passée tout à l'heure de Patrick Font et Val montre bien qu'on n'est jamais sûr d'un chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a... deux personnes qui étaient assez représentatives à un moment donné, quand on voit leur parcours, on se dit qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir.
C'est sûr. Merci Pierre des Objecteurs de Croissance 62. Merci à Nadine du LAG, le lieu autogéré de Liévin. Et on rappelle aux auditeurs, aux auditrices de Radio PFM qui écoutent cette émission le vendredi, que donc le rendez-vous du samedi matin, donc si vous voulez laver la banque, un geste symbolique, c'est le rendez-vous devant le théâtre d'Arras, 9h15.